Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Alfred Orange, on commence, Alfred, si tu le veux bien, par le départ du jour. Ouais.
Oui, à Nantes, deux sœurs de la fraternité bénédictine apostolique annoncent quitter le centre-ville de Nantes, épuisées par le climat d'insécurité qui règne dans le quartier. Les deux religieuses racontent devoir même intervenir parfois au sein même de l'église pour éviter des situations de débordement ou de violence. L'opposition municipale a réagi et a demandé à ce que la mairie de Nantes déploie plus de moyens pour lutter contre l'insécurité.
Laurent, je me tourne d'abord vers toi. Laurent Dandrieu, je sais que tu es sensible à la religion. Elles disent notamment, je ne sais pas si tu l'as dit Alfred, on n'est pas des franciscains du Bronx. Référence oui. à ces moines franciscains qui, dans le Bronx, essaient de régler des problèmes de délinquance, etc.
Qui ont un charisme particulier et qu'on choisit effectivement d'aller s'installer dans des quartiers défavorisés et difficiles pour évangéliser ces milieux-là. Ça, c'est un choix qu'ils ont fait. Mmh. Mais là, se retrouver en plein cœur de Nantes, tout à coup, à devoir faire le vigile, si j'ai bien compris, dans sa propre église, c'est quand même n'importe quoi. Il y a un vrai, vrai, vrai problème avec Nantes. Hein. On en parle souvent. Il y a souvent, malheureusement, des sujets qui reviennent. Ville qui était connue pour sa douceur de vivre encore récemment. Et qui se dégrade, mais à vue d'œil. C'est à se demander s'il y a un maire. Pourtant, j'ai cru comprendre que.
Une maire.
Une amie d'Anne Hidalgo, en plus, donc pas n'importe qui. Mais apparemment.
Johanna Roland.
Ça se passe pas bien.
Fred Hermel.
Je
vois à ton regard que ça t'énerve.
Non, mais ça m'énerve. En plus elle, dans les témoignages, elles expliquent que c'est le fait aussi d'être catholique. C'est aussi parce qu'elles sont un témoignage catholique qu'elles sont molestées, ces religieuses. Donc,
C'est parce qu'on attend certaines choses d'elles aussi. Enfin, tu comprends ce que je veux dire, la solidarité, l'aide.
Oui, elles sont là pour ça. Ben, elles le font. Ouais. Le problème, c'est ça. C'est les conséquences de ça. Ça veut dire un petit peu moins de solidarité dans le centre-ville de Nantes, puisque ce sont des personnes qui dédient leur vie aux autres. Qui font du bien, elles sont là pour faire du bien. Leur métier, c'est de faire du bien. De faire du bien et de faire le bien. Et de voir partir. Mais comme dit Laurent, en fait, Nantes, mais j'ai l'impression que toutes les semaines dans les immanquables, il y a au moins une ou deux fois par semaine un exemple.
Faut pas exagérer. Ça arrive de temps à autre.
Excuse-moi, on parle de Nantes, pourquoi ?
Ouais.
On parle de Nantes, pourquoi ? Pour des problèmes de sécurité. On ne parle plus de Nantes pour des choses culturelles, pour des bonnes nouvelles. À chaque fois, c'est pour des questions de sécurité. Ou plutôt d'insécurité.
Thierry Moreau.
Moi, je dirais que religieuse ou pas religieuse, le problème, c'est que des gens soient obligés de partir parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité dans un quartier. Moi, c'est ça qui me pose problème. Après, évangéliser, a priori, on va plutôt évangéliser ceux où c'est difficile et pas forcément là où c'est très facile. Donc, c'est un peu dommage qu'elles s'en aillent. Voilà, mais tu as raison. Aujourd'hui, la ville de Nantes, moi, j'y ai rencontré mon épouse il y a plus de 35 ans. C'était une ville qui était très, très agréable. J'ai plein de copains qui ont fait leurs études. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une ville, à certains égards et dans certains endroits, qui est très compliquée. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, le problème, c'est la sécurité. Après que deux sœurs soient obligées de partir, c'est pas l'événement du siècle. Pas...
Oui, mais c'est surtout... un témoignage quand même d'une délinquance, d'une ambiance qui est quand même révélatrice de ce qui se passe en ce moment.
Là, on parle
du centre-ville de Nantes. Quoi. Enfin,
non, mais je suis d'accord. Ouais, après, que ça soit des religieuses ou pas, c'est pas le problème.
Non,
c'est qu'elles soient obligées de partir parce qu'elles ne sont pas en sécurité.
Mais c'est un nouveau symptôme.
Voilà.
Si même des religieuses partent, alors que Dieu sait si elles existent beaucoup.
Et j'imagine qu'elles font preuve de tolérance.
Ben, voilà. Oui.
Allez, on passe au coup de gueule du jour, Alfred.
Trois associations, le Planning Familial SOS Homophobie et le SIDAction, poursuivent l'État en justice pour le contraindre à appliquer la loi en matière d'éducation sexuelle à l'école. D'après le Haut Conseil à l'égalité, les trois cours annuels dédiés à l'éducation sexuelle ne sont aujourd'hui pas dispensés à l'école. L'éducation nationale ne fait pas ses devoirs. Seuls 15% des élèves ont eu accès à ces cours à l'école et au lycée. Des cours qui sont indispensables d'après ces associations car ils permettent d'éviter de futurs comportements déviants.
Thierry Moreau, on sait que le rapport à la sexualité, les jeunes, il y a un gros problème, notamment qui est en lien avec la pornographie qui est accessible aujourd'hui partout. Elles ont raison, ces associations, au bout d'un moment, de taper du poing et dire à l'État et de rendre de dire à l'État, faites votre, ce que, votre devoir. Quoi.
Bien évidemment, elles ont raison. En fait, il y a une double problématique. Depuis 2001, normalement, nos élèves devraient avoir une éducation sexuelle de base pour éviter, par exemple, les maladies sexuellement transmissibles. On voit qu'aujourd'hui, des maladies qui sont plutôt bénignes, mais qui avaient quasiment disparu, reviennent auprès des jeunes, chez les jeunes, parce qu'ils ne savent tout simplement pas comment ça se transmet, comment ça se soigne. Et quelquefois, ça se soigne de façon bénigne, il faut juste le savoir. Donc, un minimum d'éducation sexuelle qui soit très bien faite, avec des professionnels, je pense que c'est une bonne chose. Et évidemment, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec notre ami sur l'éducation aux médias, l'accès à la pornographie sur les sites, parce que, en fait, justement, cet accès à la sexualité, ils ne l'ont que par ce biais-là, et pas du tout par... moi, j'ai eu des cours d'éducation sexuelle en biologie, on vous expliquait comment ça fonctionnait.
Oui. Avec les animaux, on faisait nous.
Je ne suis pas sûr que la motivation de SOS Homophobie soit d'empêcher les jeunes d'accéder à la pornographie, mais bon.
Il y a le planning familial aussi.
Je pense que...
Il y a aussi le planning familial.
Le planning familial aussi. Je ne pense pas que ce soit leur préoccupation principale. D'accord. Dans cette plainte.
Et vous, ils veulent faire quoi, alors ? C'est quoi leur intention ?
Je pense qu'ils ont effectivement... l'idée d'avoir une formation aux problématiques sexuelles qui soit conforme à un certain nombre de messages qu'ils
veulent
faire.
Donc tu veux dire qu'ils voudraient utiliser ça pour faire de la propagande ?
Ça, c'est pas totalement impossible.
Mais on fait pas de la propagande homosexuelle, hein. On est homosexuel ou on ne l'est pas.
Oui.
C'est pas à la suite de la propagande que tu deviens homosexuel.
Non, mais je pense que la protection vis-à-vis de leur pornographie, je pense pas que ce soit leur préoccupation principale.
Moi j'ai toujours un problème quand on porte plainte contre l'État, quand des associations s'érigent en disant c'est moi qui ai raison, c'est l'État qui a tort. Et des associations
l'État ne remplit pas son rôle,
il faut être très clair, il y a une loi qui stipule
qui n'est pas respectée.
Elle n'est pas respectée, au bout d'un moment tu fais quoi?
Oui, non, mais je veux dire, c'est comme la France qui avait été condamnée pour inaction climatique, alors que la France a beaucoup moins a une énergie tellement moins décarbonée que ses voisins.
Elle s'est pris
tout ça.
Elle a pris des engagements, elle ne les respecte pas.
Mais sauf que les autres ne sont pas condamnés alors que c'est pire. Le problème, il est là. Et des associations qui vivent en grande partie d'argent public et qui attaquent l'État. J'ai toujours un petit problème avec ça.
Elle ne respecte pas la loi. L'État ne respecte pas
la loi. Mais la loi prévoit aussi qu'on suive les programmes et qu'on enseigne un certain nombre de choses pendant l'année. Ce qui n'est pas fait faute de temps. Il y a plein de choses qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas enseignées à l'école.
Ou des choses qui ne sont pas enseignées parce que les élèves empêchent les profs de le faire.
Oui, aussi.
Sur certains sujets.
Allez, on passe au coup de crime du jour.
Il est signé Anne Hidalgo, qui prévient tous les athlètes qui participeront au JO 2024 à Paris. Il n'y aura pas de clim dans le village olympique. S'ils veulent en avoir, il faudra payer. La maire de Paris revendique à fond ces jeux écolos. Les athlètes ne mourront pas de chaud, assure-t-elle. Seuls 20% des bâtiments du village olympique sont orientés plein sud. La température ne sera donc pas si terrible que ça, d'après elle. Je pense beaucoup aux athlètes, mais beaucoup plus à la survie de la planète. Voilà comment conclut la maire de Paris.
Je sais pas pourquoi, mais plus le temps passe, plus les semaines passent. Et j'espère que ça se passera vraiment très bien, que ça sera un super événement, que ça sera très festif. Mais plus je me dis que les JO 2024 à Paris, ça va être un peu compliqué.
Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'elle pense à beaucoup de choses, mais elle a pas l'air du tout de penser à l'image de Paris, à l'international.
Encore une fois, j'espère que ça se passera vraiment bien, mais je commence à avoir des...
C'est mal barré.
Et en plus le discours, je pense d'abord aux Parisiens, la planète, avant les JO. Mais pourquoi tu les as demandés ?
Eh oui.
Surtout que, refaisons un petit histoire, cher ami, au début, elle était contre les JO. Elle était contre les JO et politiquement, il a été important qu'elle prenne position pour les JO, donc elle s'est mise dans ce lit-là, mais elle ne voulait pas des JO. La deuxième chose, c'est que quand même, juste... Pour quelqu'un qui se dit socialiste, faire une différence entre des délégations qui seront peut-être plus richement dotées que d'autres et qui pourront se payer la clim, et d'autres, des délégations qui auront moins de moyens parce qu'il y a des pays pauvres qui viennent faire les JO et qui devraient avoir beaucoup les mêmes moyens que les autres, ils n'auront pas le droit à la clim. Enfin, on marche sur la tête.
C'est du mensonge, c'est de l'impréparation depuis le début. Moi, j'ai vraiment très très peur, pas pour les matchs de Paris, pour l'image de mon pays. Qu'après ce qui s'est passé au Stade de France, quand même pour la finale de la Ligue des Champions, qui est un événement vu mondialement, là, si rebelote, en plus ça va durer 3 semaines. Hein.
C'est pas Paris
la France, c'est un pays du tiers-monde qui est incapable d'organiser. Moi, j'ai très très peur pour mon pays.
Mais surtout qu'elle dit qu'elle pense pour la planète. Mais si toutes les délégations achètent la clim, les dégâts sur la planète seront les mêmes. Donc de toute façon, ça ne fera que rapporter un peu d'argent à la mairie d'Anne Hidalgo qui en a bien besoin.
Mais l'écologiste sera sauve. C'est ça l'important.
C'est ça. Ce que disent certains, hein, ce disent certains défenseurs d'Anne Hidalgo, en tout cas de la manière dont c'est organisé. certains disent soit ça donnera peut-être une image différente de la France, de ce que le monde attendait, mais on mettra en avant les sujets écologiques.
Ben non, parce que ce sera l'image du chaos. Mmh. Et le chaos, en général, c'est pas très bon pour le climat non plus.
C'est pas faux. Allez, l'addition du jour.
634 millions d'euros, c'est ce qu'a coûté l'accueil des Ukrainiens à l'État français. À titre de comparaison, c'est deux fois plus que l'accueil de réfugiés classiques. 115 000 Ukrainiens sont arrivés en France sur toute l'année dernière. L'hébergement de ces réfugiés a coûté à l'État 38 euros par personne et par jour. Ajouté à cela, l'aide accordée aux Ukrainiens, 150 euros par mois pour ceux qui sont logés dans des foyers français. Mais la Cour des comptes prévient d'ores et déjà le maintien de cette indemnisation. N'est pas encore garantie.
Fred Hermel.
Je trouve pas ça si cher que ça finalement. C'est vrai que ça paraît beaucoup d'argent, mais par exemple on vient de filer 1 milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour lui permettre sa transition écologique.
C'est un marotte, c'est un marotte.
Mais non, c'est bien parce que moi je m'en sers pour essayer de parce que tu dis 634 millions d'euros, c'est
634, ouais.
Ça paraît beaucoup d'argent, mais il faut toujours mettre par rapport à un exemple clair. 1 milliard aujourd'hui, 1 milliard c'est rien, le président il balance comme ça. Quand on voit par exemple ce que coûte par an un mineur non accompagné étrangers, c'est beaucoup moins cher et qui, certains sont des délinquants, etc. Je veux dire, des réfugiés ukrainiens coûtent beaucoup moins cher. Donc, moi, c'est pas un chiffre qui me choque. Ça me paraît pas si énorme que ça. Et j'aimerais qu'on applaudisse une nouvelle fois la générosité du peuple français. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup. Cet argent, c'est l'État directement. Ça ne comprend pas tout ce que les Français ont offert eux-mêmes aux associations et tous ceux qui accueillent des gens et qui dépensent beaucoup d'argent très généreusement.
Thierry Moreau.
Moi, ce qui m'a un peu gêné, si tu veux, c'est que j'ai beaucoup de gens, enfin, je connais des gens dans mon entourage qui étaient prêts à accueillir des Ukrainiens, mais qui étaient beaucoup moins prêts à accueillir des Syriens, comme s'il y avait une sorte de proximité avec les Ukrainiens qu'il n'y avait pas avec les autres. Et ça me gêne. Je pense que quand on est réfugié, qu'on vient d'un pays en guerre, et Dieu sait si la Syrie est un pays compliqué, il y a d'autres pays africains.
Il y a une question culturelle, peut-être, des réflexes culturels qui fait que les gens se sentent plus à l'aise avec des Européens. Enfin, je veux dire,
je pense que faire un tri économique entre les réfugiés me gêne beaucoup.
Laurent Dandrieux.
Oui, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis quand même gêné qu'on dise c'est pas très cher, parce que va dire ça à des Français qui sont mal logés et qui n'ont aucune aide. Voilà, c'est faut être prudent quand
on exprime ce genre. Non, mais c'est un coup, mais maintenant, il fallait l'assumer, ce coup.
Je dis pas pour autant qu'il fallait pas les aider, mais je dis, dire c'est pas cher, pas forcément audible pour tout le monde. Et après, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup entendu récemment l'argument, finalement, l'accueil des réfugiés ukrainiens, ça se passe super bien, donc élargissons le droit d'asile, accueillons plus largement. D'abord, effectivement, l'intégration n'est pas la même suivant l'origine culturelle. Il y a des difficultés supplémentaires avec des gens qui sont étrangers à notre culture. Je suis désolé d'avoir à le rappeler. Et ensuite, tout ça n'est pas gratuit, c'est pas de l'argent magique.
Allez, on passe, Alfred, au coup du... Au coup dur du jour.
Oui, absolument. 100 000 chômeurs de 60 ans en plus à cause de la réforme des retraites. C'est ce que prédit l'UNEDIC. L'assurance chômage assure que le report de 2 ans de l'âge de départ devrait accentuer ce phénomène. Aujourd'hui, sachez que les plus de 50 ans mettent près de 500 jours à retrouver du travail. C'est presque 2 fois plus que les 25-49 ans.
Alors, d'après ce que j'ai compris, on recule l'âge de départ à la retraite, ce qui veut dire qu'il y a des anciens, plus d'anciens qui resteront le plus longtemps en poste.
Sur le marché.
Et donc moins de postes pour les jeunes.
Exactement.
Alors, en fait, il y a un double cliquet. C'est-à-dire qu'effectivement, automatiquement, plus on pousse l'âge de la retraite, plus il y aura de seniors au travail. Mais en revanche, on va en mettre ceux qui sont déjà au chômage, vont rester au chômage encore plus longtemps. Exactement. C'est ça qui est compliqué. Nous avons 20 ans de retard sur le travail des seniors en France, il faut le dire. Les pays du nord de l'Europe ont pris à bras-le-corps ce problème dans les années 90. Il y a 72% des Danois de 55 à 64 ans qui sont formés à d'autres métiers, 66% des Finlandais et seulement 32% des Français. Par exemple, au Danemark, quand vous avez plus de 55 ans, vous suivez une formation et vous pouvez travailler prioritairement dans les services publics pour, par exemple, faire des mi-temps, pour tenir un bureau de poste dans un petit village, service public de proximité. On a 20 ans de retard sur le travail des seniors et je peux vous dire que ça va être un problème qui va nous péter à la figure dans les années à venir et c'est dramatique.
Frédéric Carmel.
Oui, alors je suis pas très bon en maths, mais ça me paraît en fait assez logique d'un point de vue mathématique, parce que à partir du moment où l'âge de la retraite il est repoussé, ton statut de chômeur dure plus longtemps. Sinon après, si tu es en retraite à 62 ans, automatiquement, tu ne rentres plus dans les chiffres du chômage, mais tu es en retraite. Donc mécaniquement, au niveau des chiffres, en dehors du, de l'effet hein, que
il y a l'humain
sur l'emploi. Mécaniquement, le système de calcul n'étant plus exactement le même, automatiquement, ça, le chômage augmente puisque tu as plus de possibilités, plus d'années pour être au chômage, je veux dire.
Oui, et puis l'autre difficulté, c'est qu'on va maintenir avec cette réforme de plus en plus longtemps dans les entreprises des seniors qui sont par ailleurs de moins en moins désirés, en fait. C'est ça le problème.
C'est ça, ouais, exactement.
Ouais, ça, et que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez plus de 60 ans dans certaines boîtes, on vous regarde de traviole.
On dit que vous gagnez trop cher et que vous. Et on ne considère pas que vous avez de l'expérience, mais que vous êtes out et on veut se débarrasser de vous.
Allez, le redémarrage du jour, Alfred.
Oui. Un cocorico pour finir. L'industrie française se porte bien. 150 usines ont ouvert en France en 2022 contre 70 fermetures. La crise énergétique n'a pas stoppé la dynamique. Elles ont permis la création de 10 000 emplois. 4 000 emplois ont été supprimés dans le même temps, mais le solde est positif. Depuis 2016, les créations d'usines en France ne cessent d'augmenter, messieurs.
Fred Hermel, on en a fermé beaucoup d'usines en France, et notamment, je le dis parce qu'on est depuis le stand des Hauts-de-France, notamment dans les Hauts-de-France ces dernières décennies. Alors, ça paraît dérisoire ce nombre d'usines d'ouverture par rapport aux milliers qui ont fermé, mais est-ce que ça te paraît quand même positif?
Oui, mais
parce est-ce que tu crois à la réindustrialisation du pays?
J'y crois, je le désire, je le souhaite vraiment, et on a quand même une prise de conscience depuis la crise Covid, hein, en fait. On a besoin d'une certaine indépendance à ce niveau-là sur pas mal de produits, donc la réindustrialisation de la France est nécessaire. Il ne faut pas oublier que la France est quand même, avec toutes les critiques, hein, on en parle, voilà, on critique la France tout le temps, à juste titre, on reste un grand pays avec un équipement autoroutier excellent, routier excellent, avec des trains très bien, mais quand il n'y a pas grève. Enfin, je veux dire, la France, ça reste quand même un pays qui marche.
Malheureusement, on est aussi un grand pays pour les normes, c'est ça
qui est important. Pour les normes, voilà. Mais si on peut s'adapter, mais c'est-à-dire que pour une entreprise, même s'il y a beaucoup d'impôts, même s'il y a des normes, ça reste un pays qui fonctionne. Et il y a quand même. Moi, j'ai vécu à l'étranger, notamment en Espagne. Il y a quand même des services en France qu'il n'y a pas dans d'autres pays, donc qui intéressent les entreprises.
Après la réindustrialisation, ce ne sera pas de l'industrie lourde, ce ne sera pas des fonderies, ce sera de la tech. Et on est très bon là-dessus, et il faut qu'on poursuive.
Il faudrait que ce soit aussi l'industrie pharmaceutique.
Oui, bien sûr.
Aussi.
Tout à fait.
Je crois qu'on l'avait bien compris, on l'a compris ces derniers mois, qu'il y avait un souci à ce niveau-là.